Bonjour à tous.
Il ne parle que de Karl Marx. Figurez-vous qu'il a inventé un mot pour m'expliquer ses idées politiques. Il dit « Je suis marxiste ». Peut-on être marxiste, Madame Marx?
Mais moi aussi, je suis marxiste.
Comment vous aussi? Il ne vous suffit donc pas d'être la femme de Monsieur Marx?
Bienvenue sur Les Nouveaux Chemins, où cette semaine nous toisons Karl Marx dans son évolution, où nous lui laissons poursuivre sa route et tentons de trouver en lui une unité qu'il n'a peut-être pas. De la Sainte Famille au Capital, de l'idéologie allemande au manifeste du Parti communiste. Après donc la misère de la politique hier et avant la magie de la monnaie et les feux de sa méthode critique demain et jeudi, c'est son histoire que nous contemplons, histoire qui n'est rien d'autre que celle de la lutte des classes. Et toute l'équipe des Nouveaux Chemins se laisse aussi poursuivre sa route. Marianne Chassor, Marie Aubert, Antoine Ravon, Colomba Grossi, Lucie Tardy, David Pargamin, sans oublier bien sûr Adèle Vendrette. Avec à la lecture des textes cette semaine Jean-Louis Jacopin, à la réalisation Nicolas Berger et à la prise de son aujourd'hui Myriam Guillot. Nous devons commencer par constater que la première présupposition de l'existence humaine, et donc aussi de toute histoire, est que les hommes doivent être en mesure de vivre pour pouvoir faire l'histoire. Mais vivre revient essentiellement à manger, boire, se loger et se vêtir, entre autres choses. Le premier acte historique est donc la production des moyens de satisfaire ses besoins, la production de la vie matérielle elle-même. Et il s'agit même d'un fait historique fondamental, d'une condition fondamentale de toute histoire, à laquelle aujourd'hui, comme depuis des siècles, les hommes doivent satisfaire jour après jour et heure par heure afin de pouvoir ne serait-ce que subsister. Après la poésie, le droit et la philosophie, voici donc l'histoire pour Marx. La seule et unique science, désormais et pour de bon, telle qu'il le déclare en 1845 dans son idéologie allemande. Mais une histoire qui n'a rien de la nécessité des choses naturelles, mais des nécessités de l'existence humaine. Manger, boire, se loger et se vêtir, entre autres choses, nous dit-il. Entre les deux, la nuance est fine, d'une nécessité à l'autre, d'une histoire naturelle à une nature faite d'histoire. Mais entre les deux, la nuance est incompressible. L'homme, la matière de l'histoire, ou pourrait-on dire aussi l'histoire là où il y a de l'homme. Mais si pour faire l'histoire, l'homme doit donc forcément vivre, comment cette vie, ce premier acte historique, ne doit-il pas pour autant s'imposer aux hommes, se donner d'une seule manière? Comment l'histoire se donne-t-elle donc comme une lutte pour vivre, comme une lutte des classes pour vivre? Éclairage aujourd'hui d'une possible invention dans l'histoire sociale, grâce à Isabelle Garraud, enseignante de philosophie en classe préparatoire au lycée Chaptal, présidente de la grande édition Marx Engels en français et co-directrice de la revue Contretemps, et aussi co-directrice avec Jean-Numa Ducange de l'ouvrage collectif Marx Politique. Bonjour et bienvenue à vous.
Bonjour, merci de votre invitation.
Toutes ces pierres là, c'est de la niloise. Ça vient du Nil, exprès.
Je trouve que c'est très violent de fouetter les esclaves.
Mais non, ce ne sont pas des esclaves, ce sont des ouvriers qualifiés qui exercent leur travail de leur plein gré. Et avec de la rémunération en plus.
Mais des fois, c'est pour faire joli.
Non, oui, enfin, je ne sais pas, personne ne s'est jamais plaint pour l'instant.
Ah, c'est le signal pour la soupe, Sam.
Non, non, en fait, c'est les fouetteurs qui se relaient, regardez.
Ah.
Vous voyez, la tradition veut qu'ils s'échangent leurs cheveux. Voilà, le fouetteur devient tireur et le tireur fouetteur. Ils sont liés par les liens capillaires.
Oui, c'est notre culture.
Ouvriers ! Ouvriers ! Camarades, sommes-nous revenus au temps des pharaons ? À trimer sous les coups de fouet ? Et pour qui ? Pour César.
Ouais !
camarades. On vous exploite. On vous crève à la tâche. Et franchement, voilà.
Il a raison.
L'histoire de toute société jusqu'à nos jours est l'histoire de lutte de classe. Hommes libres et esclaves, patriciens et plébéiens, barons et serfs, maîtres de jurande et compagnons, bref, oppresseurs et opprimés, en opposition constante, ont mené une lutte ininterrompue, tantôt ouverte, tantôt dissimulée, une lutte qui finissait toujours soit par une transformation révolutionnaire de la société tout entière, soit par la disparition des deux classes en lutte. Dans les premières époques historiques, nous constatons presque partout une structuration achevée de la société en corps sociaux distincts, une hiérarchie extrêmement diversifiée des conditions sociales. Dans la Rome antique, nous trouvons des patriciens, des chevaliers, des plébéiens, des esclaves. Au Moyen Âge, des seigneurs, des vassaux, des maîtres, des compagnons, des serfs. Et de plus, dans presque chacune de ces classes, une nouvelle hiérarchie particulière. La société bourgeoise moderne, élevée sur les ruines de la société féodale, n'a pas aboli les antagonismes de classe. Elle n'a fait que substituer de nouvelles classes, de nouvelles conditions d'oppression, de nouvelles formes de lutte à celles d'autrefois. Cependant, le caractère distinctif de notre époque, de l'époque de la bourgeoisie, est d'avoir simplifié les antagonismes de classe. La société entière se scinde de plus en plus en deux vastes camps ennemis, en deux grandes classes qui s'affrontent directement, la bourgeoisie et le prolétariat.
Isabelle Garraud, on vient d'entendre le manifeste, le tout début du manifeste du Parti communiste écrit par Marx et Engels qui date de 1848 avec cette phrase cruciale, l'histoire de toute société jusqu'à nos jours et l'histoire de lutte des classes. C'est une phrase cruciale qu'on a entendue à plusieurs reprises, qui a été abondamment interprétée et même caricaturée comme on l'a entendu aussi dans l'extrait du film de Chabat, d'Alain Chabat, Mission Cléopâtre, où le personnage interprété par Gérard Darmon a Mon beau-fils tente de créer, de provoquer un soulèvement parmi les esclaves. On y entend tout ce vocabulaire marxiste d'exploitation, de se retourner contre la domination. Mais la première chose qu'on doit peut-être se poser comme question quant à la vision de Marx, de l'histoire par Marx, c'est se demander en fait est-ce que c'est si révolutionnaire que ça de dire que l'histoire est d'abord une histoire faite par les hommes, constituée par les hommes, dont la matière serait les hommes.
Non, en effet, c'est pas si révolutionnaire que ça, au sens où Marx lui-même d'ailleurs reconnaît que l'idée d'une lutte de classe dans l'histoire n'est pas une idée originale, qu'il l'emprunte notamment aux historiens français du XIXe siècle, les historiens de la tradition libérale, qui sont finalement parmi les premiers à théoriser cette lutte de classe. Donc l'originalité de Marx n'est sans doute pas là, elle est dans le fait de relier ces luttes entre les classes à l'analyse de l'ensemble des rapports sociaux à chaque époque, donc pour chaque mode de production. Là, Marx va entrer dans le détail, dans la machinerie même de l'histoire et s'intéresser à la production. Ça, c'est vraiment nouveau par rapport aux historiens dont il s'inspire.
En fait, il va ramener, et c'est ce qu'on disait hier en partie avec Frank Fischbach à propos de la politique, en fait, il va ramener ça à des rapports sociaux. L'histoire, là aussi, est une histoire sociale, plus qu'une histoire naturelle ou qu'une histoire politique, finalement.
Absolument, c'est une histoire sociale et politique, je dirais, les deux ensemble. Marx associe les deux, même si la critique de la politique existe par ailleurs. Histoire sociale et politique qui tranche sur une histoire naturelle. Et là, il y a deux registres, deux pans de l'histoire hein, tout à fait distincts pour Marx. Même si du côté de la nature, il y a une dimension historique, il y a une transformation de la nature qui est une sorte d'histoire de la nature, mais bien différente évidemment de l'histoire humaine.
Alors Isabelle Garraud, il faut revenir quand même sur cette phrase, hein, l'histoire de toute société jusqu'à nos jours est l'histoire de lutte des classes, déjà dire l'histoire de toute société jusqu'à nos jours. Il y a une dimension tout à fait nécessaire, tout à fait universelle dans cette affirmation. Juste après, Marx va déplier les moment en fait de d'évolution d'histoire d'une société. Donc il y a d'abord les sociétés primitives et puis ensuite la Rome antique avec les esclaves, comme on l'a entendu dans l'extrait du film d'Alain Chabat, Mission Cléopâtre, et puis il y a aussi le Moyen-Âge avec le servage, et enfin la société bourgeoise, donc qui met face à face deux classes qui sont donc la bourgeoisie et le prolétariat. Est-ce qu'on ne peut pas dire que là, Marx a une vision tout à fait déterministe, déterminante de l'histoire, qui s'imposerait en fait. Il produit là un modèle idéal de compréhension de l'histoire qui va à l'opposé de ce qu'il a voulu faire en suivant en fait les transformations de l'homme, en étant dans une vision beaucoup plus pratique de l'histoire.
Alors, l'idée qu'il y a eu et qu'il y a toujours eu des luttes de classe à travers l'histoire est une idée qui, pour Marx, n'est pas une thèse abstraite. Elle est liée à l'analyse de cette histoire en ses différents moments. Et pour lui, on peut repérer à chacun de ces moments différentes classes et les affrontements, les conflits qui séparent ces classes. De ce point de vue-là, il rompt avec une tradition de l'histoire dont il est un héritier et qui est une tradition philosophique de l'histoire, avec notamment la grande figure de Hegel, dont il est un des héritiers. Et la rupture se fait justement sur ce point-là, c'est-à-dire que pour Marx, il faut analyser l'histoire telle qu'elle se déroule, et ce fil conducteur, ce fil de lecture qui est la lutte de classe, est un fil qui est tiré de l'observation de l'histoire et non pas d'une thèse philosophique générale. Donc de ce point de vue-là, il y a bien nécessité, mais cette nécessité, elle est dans les choses, elle est inscrite dans les choses elles-mêmes, et les luttes de classe ensuite vont laisser place à chaque fois à la possibilité aussi d'intervenir et de transformer ces rapports sociaux, puisque l'histoire est faite justement de modes de production très différents les uns des autres.
Mais de quelle observation Marx part-il ? Part-il des sociétés d'abord occidentales ? Est-ce qu'il propose un modèle d'histoire, de déroulé de l'histoire ? C'est-à-dire que d'un côté, on a l'impression quand même qu'il impose un déroulement de l'histoire qui suivrait forcément ces étapes-là. Et d'autre part, on peut se demander aussi s'il n'impose pas un modèle, on va dire, spatial, c'est-à-dire en se demandant si ce modèle-là n'est pas juste un modèle européen qu'il aurait constaté en Angleterre, en France, en Allemagne, mais qui ne se constaterait pas dans d'autres parties du monde.
Alors, c'est une question très intéressante que vous posez là, parce que elle renvoie à la fois à l'évolution de Marx lui-même sur ces questions, et puis à cette fameuse question de la nécessité dont on vient de parler. Alors, sur le premier point, on peut dire que Marx a évolué, qu'il a d'abord une conception plutôt avec, disons, une dimension déterministe, effectivement, avec l'idée que l'histoire suit un cours qui est relativement nécessaire et passe par des étapes successives. Cette conception-là va être complètement remise en cause à partir du moment où Marx, on va dire au milieu des années 1850 et vers la fin des années 1850, s'intéresse aux sociétés non occidentales et s'aperçoit que là, il y a une histoire qui est multilinéaire, qui n'est pas la même partout, et qu'il faut prendre en compte cette grande diversité historique. De ce point de vue, on a un Marx qui va changer dans son analyse, qui va la rendre plus complexe, qui va la diversifier, et qui va analyser des formes de domination, d'oppression, qui ne sont pas simplement celles de la classe prolétaire blanche européenne, mais évidemment intégrer la question de l'esclavage, la question de la colonisation, etc.
L'autre point à analyser dans cette phrase aussi, c'est celle de la lutte des classes. Que doit-on entendre par lutte des classes ? C'est-à-dire que on entend dans la suite du texte que tout est lié à la manière dont les hommes vont transformer la nature par leur travail, dans la manière dont ils vont entretenir des rapports entre eux à partir de cette exploitation de la nature, de modes de production à partir de cette nature. Mais cette lutte, finalement, consiste-t-elle à avoir le plus de nature, à détenir le pouvoir, consiste-t-elle, est-ce qu'il y a toujours deux groupes qui se distinguent, ou est-ce que les choses sont beaucoup plus floues que ça? Quelle est cette lutte des classes dont parle Marx?
Alors, cette lutte des classes, Elle s'inscrit effectivement dans cette grande perspective historique qui fait que les hommes sont en relation avec la nature, qu'ils transforment par leur travail, mais qu'ils sont par la même occasion en relation entre eux. Et ce sont ces rapports sociaux qui vont voir naître des relations de domination, d'oppression, d'exploitation aux différentes époques historiques. Donc là, les luttes de classe sont des luttes qui sont ancrées dans cette transformation de la nature. Vous citiez ce texte de l'idéologie allemande où Marx dit finalement la définition de l'être humain, c'est le fait que les hommes produisent leurs conditions d'existence. Eh bien, à travers cette production des conditions d'existence, on va voir les différentes classes se dissocier, s'affronter, s'opposer sur la question des intérêts sociaux qui sont les leurs et qui sont divergents pour Marx.
C'est inéluctable. J'espère que tout le monde aime ça. Oui, qu'est-ce que je disais? Ah oui, la Chine, l'URSS évidemment, l'Allemagne de l'Est, la Roumanie, la Tchécoslovaquie, non pas de vin, merci, la Hongrie et j'en passe.
La Pologne.
Les deux tiers de l'humanité sont déjà communistes.
Et ce n'est qu'un début.
Merci. Et si les Français disent non dimanche au référendum de De Gaulle, la France aussi deviendra communiste.
C'est trop beau.
Forcément, le système de production capitaliste s'effacera devant le socialisme, comme la bourgeoisie avait remplacé la noblesse en 89, qui elle-même avait succédé au système féodal.
Non mais c'est dialectique.
C'est délicieux.
Lorsque les ouvriers communistes se réunissent, c'est d'abord la doctrine, la propagande qui est leur but. Mais en même temps, il s'approprie par là un besoin nouveau, le besoin de la société. Et ce qui semble être le moyen est devenu le but. On peut observer les plus brillants résultats de ce mouvement pratique lorsque l'on voit réunis des ouvriers socialistes. Fumer, boire, manger ne sont plus là comme des prétextes à réunion ou des moyens d'union. L'assemblée, l'association, la conversation qui à son tour a la société pour but leur suffisent. La fraternité humaine n'est pas chez eux une phrase vide, mais une vérité. Et la noblesse de l'humanité brille sur ces figures endurcies par le travail. Isabelle Garot, on vient d'entendre deux éléments qui semblent s'opposer et qui vont nous permettre d'approfondir l'idée de cette lutte des classes et surtout la manière dont cette lutte des classes prend forme dans l'histoire. Alors on a tout d'abord entendu un extrait du film de Jean-Jacques Zilberman qui date de 1993, Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des parents communistes, où on y entend en fait le mouvement inéluctable de l'histoire à travers le visage du communisme. Il faudra d'ailleurs distinguer la théorie de Marx peut-être du communisme. Donc à travers ce mouvement inéluctable du communisme qui s'étend aux deux tiers de la planète, entend-on, on entend l'énumération dix pays, il va forcément continuer à s'étendre. Et puis juste après, j'ai fait la lecture d'un extrait des manuscrits de 1844 de Marx, dans lequel Marx décrit justement le visage humain de ce mouvement inéluctable de l'histoire, visage humain où les ouvriers finalement se réunissent pour boire, pour manger, ce qu'on entend aussi d'ailleurs en fait dans l'extrait du film. Comment Marx permet-il d'articuler à la fois ce mouvement de l'histoire qui semble s'imposer aux hommes et la manière dont les hommes prennent part à cette histoire, incarnent cette histoire ?
Oui, alors bien sûr, votre premier extrait souligne le fait que ce mouvement soi-disant inéluctable ne l'est pas du tout, puisque les pays dits socialistes ont depuis lors disparu presque dans leur totalité. Donc là, on voit bien aussi comment une pensée peut être à un moment donné simplifiée, disons, même s'il faut bien mesurer ce qui s'est passé entre-temps, et puis l'espoir historique colossal qui a été soulevé par la révolution, notamment la révolution soviétique. Indépendamment de cette histoire-là, qui n'est pas celle de Marx, ce qu'on entend dans le deuxième texte que vous avez lu, c'est cette découverte que va faire le jeune Marx. On est en 1844, il va être expulsé d'Allemagne, il va découvrir la France, et en France, il découvre le mouvement socialiste. Donc il va découvrir les ouvriers pour la première fois, et c'est très frappant dans ce texte de voir le respect, la sympathie qui tranche aussi sur tout un ensemble de préjugés qui sont encore présent aujourd'hui, l'idée que la classe ouvrière serait des gens incultes, quasi barbares, etc. Marx, évidemment, ne partage pas du tout ce point de vue-là. Donc là, on a cette dimension humaine, disons, de la lutte des classes et de la lutte politique. Et pour Marx, le caractère inéluctable, finalement, il n'est pas inéluctable. C'est-à-dire que ça passe justement par une vie sociale qui se noue aussi dans les relations de lutte, que l'engagement des individus est un engagement qui est décidé, qui peut aussi ne pas avoir lieu. Marx insiste dans d'autres textes sur le fait que entre ouvriers, il y a aussi des phénomènes de concurrence qui empêchent cette unité, la classe qui ne va absolument pas de soi. Bref, il n'y a pas chez Marx, il y a de moins en moins, en tout cas à mesure que le temps passe, l'idée que la révolution est quelque chose d'automatique qui va se faire tout seul et qui va se faire sans les hommes. C'est absolument pas son point de vue.
Donc le mouvement dialectique, parce qu'il faut aussi revenir sur ce terme de ces dialectiques qui est balancé dans l'extrait et qui est en fait le mouvement, la manière même dont Marx décrit le mouvement de l'histoire à partir de Hegel d'ailleurs. C'est-à-dire que ce ne serait pas des phases successives, linéaires de l'histoire qui seraient là, mais c'est que à chaque fois qu'un élément éclot, il comporte en lui un élément négatif et ils vont ne faire que se surmonter l'un l'autre. Il y aurait un élément positif, un élément négatif et un élément négatif de l'élément négatif. En fait, ça avancerait de cette manière-là. Est-ce que à partir de là, il y a ce paradoxe de une histoire qui avance, mais seulement à partir de négation, en fait, à partir de lutte. Et à ce moment-là, l'histoire ne s'arrête jamais. Et le communisme, évidemment, qui a été un des visages de la théorie de Marx, même si on doit les dissocier, est moins en vogue, n'est plus là. Comme vous le disiez, les pays qu'on disait communistes ne le sont plus aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a que peut-il y avoir en fait dans après cette histoire? C'est-à-dire que comment cette histoire peut-elle se prolonger encore aujourd'hui?
Oui, alors le mot de dialectique, Marx l'emprunte effectivement à Hegel, il le redéfinit complètement, et il définit une dialectique qui va cette fois être matérialiste. Alors son idée, pour le dire très vite, c'est que l'histoire humaine tout entière, pas seulement l'histoire humaine, mais notamment elle, puisque nous en parlons, est marquée, traversée, mue par des contradictions qui ne cessent jamais. Et ces contradictions sont le moteur de cette histoire. Donc elles prennent la forme des luttes de classe, mais pas seulement. Et on pourrait dire même que les luttes de classe sont l'expression de contradictions qui sont encore plus fondamentales, qui sont des contradictions qui se situent au niveau même de la formation économique et sociale, ou de la base, comme dit Marx, au niveau des rapports sociaux de production. Là, on va trouver des contradictions qui amènent le capitalisme, si on parle de lui, qui amènent ce capitalisme de crise en crise, crise toujours plus grave, toujours plus profonde, dit Marx. Et ces crises vont être... vont trouver une traduction complexe du côté de la vie sociale et politique, pas immédiate, pas linéaire, mais aussi se traduire sur ce terrain-là. Alors, pour Marx, de ce point de vue-là, l'histoire ne s'arrête jamais, effectivement. Ces contradictions vont se développer en permanence et il n'y a pas d'idée qu'il y aurait un terme de l'histoire.
Même la révolution qu'il propose, finalement, renversée par le communisme, avec ce manifeste du Parti communiste, renverser ce mouvement-là, en tout cas, les rapports de classe dans l'histoire, ne parvient pas à mettre fin, en fait, à cette histoire ?
Non, l'idée est de changer de régime historique, mais pas de mettre fin à l'histoire. Hein. Vous savez que dans le manifeste, il n'y a pas de description en bonne et due forme du communisme. Alors, il y a bien sûr un projet, et un projet qui, pour Marx, doit être élaboré par l'ensemble des individus qui sont parties prenantes, et élaboré démocratiquement, c'est un point extrêmement important, et qui la tranche sur l'histoire qui s'est réclamée de Marx. Et cette élaboration va se faire de manière continue, avec une sortie de ce régime de contradiction qui est celui des luttes de classe marquées par la domination. Ça, pour Marx, il faut abolir à un moment donné cette opposition entre les classes. Mais il est clair que dans le communisme, l'histoire n'aura pas disparu pour autant et que d'autres contradictions continueront d'exister.
C'est intéressant, c'est-à-dire que l'histoire ne peut pas se passer, selon Marx, de contradictions. Néanmoins, on peut la penser sans domination. Alors, quelles pourraient être ces contradictions, finalement? Est-ce que tout est lié à la transformation transformation de la nature par le travail. Et en fait, la question, en fait, est-ce que Marx lui-même n'aurait pas élaboré une théorie tellement puissante de l'histoire que lui-même serait pris au piège de cette théorie? C'est-à-dire que si tout est lié, à savoir la transformation de la nature par les hommes et par le travail, et qui n'est pas réductible à la lutte des classes, il reste quand même forcément le travail va mettre forcément en place des rapports, ou alors peut-être suis-je complètement imprégné par le capitalisme que je n'arrive pas à voir un travail qui soit dépourvu de rapports de force, de rivalité, de concurrence. Comment on peut penser en fait une histoire contradictoire mais sans rapport de force à partir du travail?
Oui, alors Marx insiste sur le fait qu'il ne pourrait pas y avoir de transformation future de la société capitaliste s'il n'y avait pas en germe dans cette société capitaliste des éléments de ce dépassement. Et il insiste en particulier sur cette contradiction gigantesque qui existe encore aujourd'hui, qui fait que d'un côté, on a dans le travail des rapports de coopération qui mettent en jeu des forces sociales absolument gigantesques, l'ensemble des salariés qui produisent, qui travaillent dans le cadre des services, etc., et qui collaborent, qui produisent de manière collective. Et puis, de l'autre côté, dit Marx, il y a cette appropriation privée des richesses collectivement produites. Contradiction qui est un scandale aussi et qui explique les luttes à la fois sociales et politiques et l'idée d'un dépassement du capitalisme pour abroger ce qui est cette contradiction fondamentale entre ceux qui produisent les richesses, ceux qui organisent la vie sociale, ceux qui s'accaparent ces richesses, ceux qui les captent de façon tout à fait indue. Et là, l'analyse du capitalisme pour Marx va passer par l'analyse de ce qu'il appelle la plus-value et l'analyse de la manière dont on extorque qu'à travers l'exploitation, on va extorquer ces richesses d'une manière qui est peu visible. C'est ça pour lui qui fait la spécificité du capitalisme, c'est qu'on ne voit pas directement cette exploitation et cette domination qui pourtant est omniprésente.
Alors comment peut-on la dépasser si on ne la voit pas ?
D'abord, il faut la voir. Et c'est le rôle de la théorie, justement, rôle théorique et politique en même temps, de l'analyse critique, et de montrer et de faire voir un certain nombre de choses. Et du coup, de rendre possible des perspectives de dépassement, des perspectives de construction d'un autre projet. Et Marx, de ce point de vue-là, fait aussi confiance à la classe ouvrière de son temps, puisque, indépendamment de lui, son impact est réel, mais il n'est pas si énorme que cela, indépendamment de lui, toutes ces traditions socialistes puis communistes vont être porteuses de ce projet de transformation. Donc là, il y a une lucidité aussi de ceux qui luttent pour un autre monde.
Comment les hommes peuvent-ils intervenir ? C'est-à-dire que dans le texte que j'ai lu, il y a ce visage humain que prend l'histoire avec ces réunions où il dit, où Marx dit cette phrase très jolie qui est que la fraternité humaine n'est pas chez les ouvriers une phrase vide mais une vérité. Alors à quel moment en fait les hommes peuvent-ils intervenir ? Peuvent-ils décider ? En fait, vous avez dit, Isabelle Garot, qu'il ne s'agit pas d'attendre la révolution, la transformation, il s'agit aussi de la provoquer. La crise ne s'impose pas seulement, il faut aussi savoir la détecter, en prendre conscience. Comment ça se produit ? Comment Marx a-t-il envisagé cette prise de conscience-là ?
Oui, alors là aussi, c'est une question très importante. Pour Marx, les crises jouent un rôle tout à fait important. Les crises du capitalisme, qui sont cycliques, qui existent en son temps, bien sûr, et plus encore dans le nôtre, pour lui, ce sont des moments où il n'y a pas non plus de phénomène automatique de prise de conscience, mais il est clair que ce sont ces moments de crise qui vont permettre le développement des luttes sociales et politiques. Donc là, il y a cette dimension historique qui est présente et qui fournit des circonstances permettant ou ne permettant pas, ou permettant moins, en tout cas, l'intervention de ceux qui souhaitent le progrès social. Pour Marx, il y a aussi l'importance des représentations, l'importance des idées, l'importance des projets qui vont permettre à un moment donné la mobilisation ou qui vont l'empêcher. Donc on voit bien là qu'on a un schéma historique extrêmement complexe, pas un schéma du tout d'ailleurs, puisqu'il faut prendre en compte à la fois les circonstances historiques globales, mais aussi la manière dont les hommes les pensent, s'en empare et juge que quelque chose d'autre est possible et peut être construit. Donc une très grande complexité à l'arrivée et qui fait qu'à chaque moment, pourtant, l'intervention humaine est possible, l'intervention collective est possible et que pour Marx, il va bien falloir à un moment donné sortir de ce capitalisme qui nous conduit de crise en crise à un monde de plus en plus invivable. As soon as you're born, they make you feel small.
by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be.
Vous écoutez France Culture, il est 10h30, bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance où toute cette semaine nous sommes sous les feux de Marx, Karl Marx, dont nous évoquons aujourd'hui la conception de l'histoire qui n'est autre que l'histoire de la lutte des classes, en compagnie d'Isabelle Garot, enseignante de philosophie en classe préparatoire au lycée Chaptal, présidente de la grande édition Marx Engels en français, co-directrice également de la revue Contre-temps et auteure notamment de Marx, une critique de la philosophie disponible au Seuil, Marx et l'invention historique qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui, disponible aux éditions Sileps, et puis aussi de l'ouvrage collectif Marx Politique aux éditions de La Dispute, écrit avec Jean Numa Ducange.
À vrai dire, dans l'histoire passée, c'est un fait parfaitement empirique qu'avec l'extension de l'activité au plan de l'histoire universelle, les individus ont été de plus en plus asservis à une puissance qui leur est étrangère, oppression qu'ils prenaient pour une tracasserie de ce qu'on appelle l'esprit du monde. Une puissance qui est devenue de plus en plus massive et se révèle en dernière instance être le marché mondial. Mais il est tout aussi fondé empiriquement que cette puissance, si mystérieuse pour les théoriciens allemands, sera abolie par le renversement de l'état social actuel, par la révolution communiste et par l'abolition de la propriété privée qui ne fait qu'un avec elle. Alors, la libération de chaque individu en particulier se réalisera exactement dans la mesure où l'histoire se transformera complètement en histoire mondiale. Il est clair que la véritable richesse intellectuelle de l'individu dépend entièrement de la richesse de ses rapports réels. C'est de cette seule manière que chaque individu en particulier sera délivré de ses diverses limites nationales et locales, mises en rapport pratique avec la production du monde entier, y compris la production intellectuelle, est mise en état d'acquérir la capacité de jouir de la production du monde entier dans tous ses domaines, création des hommes. La dépendance universelle, cette forme naturelle de la coopération des individus à l'échelle de l'histoire mondiale, sera transformée par cette révolution communiste en contrôle et domination consciente de ces puissances qui, engendrées par l'action réciproque des hommes les uns sur les autres, leur en ont imposé jusqu'ici, comme si elles étaient des puissances foncièrement étrangères, et les ont dominées.
Je voudrais pas que tu croies que la ville d'entreprise, ça m'intéresse pas. Elle m'intéresse et elle m'intéresse même beaucoup.
Bon, parce que moi j'avais l'impression que tu voulais pas trop t'investir.
Je veux pas m'investir, mais j'y suis tous les jours, je bosse tous les jours là-bas, moi. C'est la moitié de ma vie. Tu sais, c'est con à dire, mais l'usine, t'y rêves pas d'y bosser. Tu te dis pas, putain, je vais me retrouver devant ma machine à faire des trous dans une plaque. Superbe, ça va être la fête, quoi. Personne te dit ça, personne ne rêve de ça. Mais bon, c'est comme ça. Et puis, y aller tous les jours, franchement, c'est vraiment pas évident. Le premier jour, je suis arrivé à l'atelier, quand j'ai vu tous ces gars en bleu de travail, plein de cambouis, le dos tourné devant leur machine, et puis le boucan de la presse. Putain, je me suis dit, putain, mais c'est l'enfer, quoi. J'avais qu'une envie, c'était de me casser, quoi. Et puis, je sais pas, d'autre côté, il y avait ton père. Il me voyait faire, il voyait que je m'en sentais pas trop. Il est venu m'aider, quoi. De temps en temps, sans faire exprès, ça m'arrive encore de le regarder. Bien sûr, pas pour les mêmes raisons, parce que bon, le taf, maintenant, je le fais les yeux fermés. Mais plutôt de voir qu'il y trouve son compte. Et de tenir comme il tient, moi, ça m'aide à tenir.
C'est parfait, donc toi, tu tiens grâce à lui, lui tient grâce à un autre, etc. Il n'y a plus qu'à tirer l'échelle, merci patron.
Écoute, je dis merci à personne. Tout ce que je viens de te raconter, c'est la vie de plein de gens. Maintenant, toi, si tu sais l'améliorer, tant mieux. Et pendant ce temps-là, ces gens-là, il faut qu'ils tiennent.
Isabelle Garraud, on vient d'entendre un extrait du film de Laurent Cantet qui date de 1999, l'excellent Ressources humaines. Dans cet extrait, on a entendu ce jeune ouvrier qui raconte son expérience dans l'usine. Il n'en est pas du tout heureux, pas du tout satisfait. Il dit même que c'est l'enfer, que personne n'en rêve. Mais c'est comme ça. Et là, on se rend compte que la prise de conscience que souhaite Marx, prise de conscience qu'il réitère dans le texte qu'on a entendu juste avant, interprété par Jean-Louis Jacopin, cet extrait coécrit avec Engels de l'idéologie allemande qui date de 1845, on voit que cette prise de conscience ici ne suffit pas à enclencher une action. Et là, on se situe d'une part à un niveau individuel, ce n'est plus l'individu collectif, c'est l'individu individuel, le sujet qui a conscience, mais qui seul, en fait, se voit fatalement pris au piège de ce mode de production et ne se sent pas d'agir. Alors Marx a-t-il pu envisager, en fait, ce sujet pris au piège de l'histoire ?
Oui, alors là, on tombe sur la question de l'aliénation. Que Marx va mettre au cœur de sa réflexion, l'idée que les individus dans le travail vont subir ces rapports sociaux qui sont violents, déshumanisants. Mais ce qui est important dans son analyse, qu'il faut pas oublier, je crois, c'est que cette aliénation, elle va toujours de pair avec des formes de résistance qui sont plus ou moins développées, plus ou moins construites. Et c'est ce qu'on entend dans l'extrait de ce très beau film de Cantet, une fatigue, une lassitude, une forme de colère, un sentiment d'impuissance, et de ce point de vue, il est clair que les luttes de classe vont absolument pas de soi, comme vous l'avez très bien dit, la conscience est pas du tout automatique, tout dépend des circonstances historiques, sociales, politiques, de ce que peuvent proposer à un moment donné des organisations, celles du mouvement ouvrier, d'autres formes aussi de lutte à certains moments, comme on en connaît aujourd'hui. Bref, il y a là des circonstances complexe qui fait qu'il y a ou qu'il n'y a pas mobilisation, qu'il n'y a pas des formes de lutte collective, mais qu'en tout cas, ce qui est toujours présent, c'est l'insatisfaction face à des conditions de travail qui sont imposées et qui mettent les uns sous la domination des autres. Là, on ressent très bien dans cet extrait cette colère. Et pour revenir, si vous permettez, au premier extrait que vous avez lu, qui est un texte tout à fait sidérant, parce qu'on voit dans ce petit passage de l'idéologie allemande se télescoper à la fois l'histoire mondiale, l'histoire universelle et mondiale, et la question des individus. Et c'est vraiment comme ça que Marx essaye de penser l'histoire, c'est-à-dire à la fois globalement, avec un système de causes et d'effets qu'il faut analyser au plan global, mais en même temps avec un ressort de cette histoire, un mouvement historique qui trouve toujours ses racines du côté des individus en tant que tels. Alors qui trouve ses racines et qui trouve ses effets aussi de ce côté-là.
Qui peut aussi trouver ses limites.
Et qui trouve ses limites. Tout à fait. Pour Marx, l'histoire est faite par les hommes, pris dans des rapports sociaux, mais par les hommes individuels. Et c'est au niveau de l'individu aussi que les retombées positives d'une transformation doivent se faire sentir et doivent être espérées. Autrement dit, pour Marx, le communisme, c'est aussi le moment politique, non pas du tout d'une espèce de collectivisation, le terme a très mauvaise presse avec l'histoire du XXe siècle, collectivisation au sens d'éradication de la dimension individuelle, mais bien à l'inverse, et ce petit extrait le dit, la capacité pour les individus à s'approprier les richesses, et y compris intellectuelles, dit Marx, qui sont les richesses produites par l'ensemble des hommes au cours de l'histoire. Donc là, la dimension de l'individu vient vraiment modifier cette idée reçue qu'on a d'un communisme de caserne, dont Marx aurait été le théoricien.
Oui, où l'idée d'individu aurait complètement disparu. En tout cas, l'idée de sujet aurait complètement disparu. C'est-à-dire que là, par exemple, dans le texte, il dit aussi que l'homme, chaque individu, sera mis en état d'acquérir la capacité de jouir de la production du monde entier dans tous ses domaines, entre parenthèses, création des hommes. Donc là, effectivement, il y a même ce terme, on n'est pas du tout dans un marxisme tel qu'on l'image qu'on s'en est fait au XXe siècle de quelque chose d'ascétique. Là, pour le coup, il y a ce terme de jouissance est assez particulier. Il faut peut-être s'arrêter dessus. C'est-à-dire que dire que l'individu jouit chez Marx, c'est donner une autre dimension à sa théorie.
Oui, absolument. Alors c'est un point très important. Ça relève de cette tradition matérialiste dans laquelle il s'inscrit. Pour Marx, l'histoire humaine, c'est le développement, on l'a dit, hein, des besoins sur la base de leur satisfaction, mais c'est le développement des désirs aussi. Et Marx n'oublie absolument pas cette dimension-là. Donc on voit là, dans dans ce petit passage et dans le reste de l'œuvre de Marx, une attention portée à cet épanouissement des caractéristiques humaines, qui est vraiment pour lui ce que l'histoire à un moment donné doit parvenir à réaliser. Et la question de l'individu, elle est vraiment centrale aussi parce que dans cet écrasement que l'on ressent, la volonté de lutte est une volonté de mieux vivre, y compris à travers le moment de la lutte lui-même. C'est-à-dire que la question de la jouissance dans le texte de 44 n'est pas reportée à des lendemains qui chantent, mais elle est là maintenant tout de suite, dans les collectifs et dans les collectifs qui se bagarrent. Et là aussi, ça fait écho avec ce qui se passe aujourd'hui, avec de nouvelles formes d'organisation politique, des formes de lutte, où le plaisir d'être ensemble, le plaisir d'enfin pouvoir discuter, débattre, envisager autre chose, sortir de ce monde qui nous emprisonne, est quelque chose de tout à fait fondamental.
Le piège aussi, c'est que quand on lit ce texte en fait de Marx, Engels, de l'idéologie allemande, c'est qu'on y voit toute l'actualité en fait de ce texte, effectivement, et de dire c'est même peut-être plus actuel aujourd'hui qu'il y a 150 ans. C'est-à-dire que parler de la production mondiale, c'est assez incroyable en 1845, et pourtant on l'entend, mais le piège, c'est qu'en fait, tout ce que dit Marx dans ce texte, on pourrait peut-être, comment dire, le devoir au capitalisme aujourd'hui. C'est-à-dire que la production mondiale, c'est le capitalisme qui l'assure, la jouissance de l'individu, c'est le capitalisme qui l'assure, et effectivement, qu'est-ce qui pourrait rendre encore Marx désirable? C'est-à-dire que la jouissance de c'est-à-dire que vous parlez de forme actuelle de révolte contre le capitalisme, tout le monde se sent plus ou moins oppressé par le capitalisme, on l'entend dans l'extrait de Ressources humaines avec la figure de l'ouvrier, mais maintenant les formes d'oppression ne sont plus réductibles à la figure de l'ouvrier, et d'un autre côté, tout le monde a l'air de aussi se satisfaire en fait de cette jouissance qui est apportée par le capitalisme. Alors, qu'est-ce qui peut à ce moment-là encore rendre désirable Marx?
Alors, rendre désirable Marx ou rendre désirable le communisme, ce qui est un petit peu différent.
Peut-être. Ou peut-être une autre forme que prendrait idéologie que prendrait Marx.
Bien sûr. Là, c'est évidemment encore la question de l'individu qui est posée. Hein. Pour Marx, le capitalisme a forgé les individus que nous sommes profondément. Donc s'extraire du monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, s'extraire mentalement, c'est un exercice extrêmement difficile. Et en même temps, vous avez raison de dire que d'un certain point de vue, l'actualité de ces thèses-là est encore plus grande qu'au 19e siècle. Parce que les vagues successives de mondialisation se sont amplifiées, que cette mondialisation nous met en contact avec l'ensemble du monde, que nous avons une conscience beaucoup plus développée de ce point de vue-là de ce qui se passe, que nous, individus consommateurs, nous sommes en contact aussi avec ces biens, ces marchandises produites en quantité, et qu'on retrouve donc cette contradiction fondamentale entre ce qui nous est offert, ce dont on sent qu'on pourrait se l'approprier, et c'est derrière l'énorme question du temps libre aussi, que pose Marx, d'un temps qui n'est pas passé à travailler, à se tuer au travail dans les conditions qui sont imposées, mais d'un temps pour l'individu. Et là, se naissent et renaissent en permanence l'envie de sortir de cette situation, qui est une situation à la fois d'aliénation pour les individus, mais aussi une situation dont on mesure bien le caractère maintenant franchement catastrophique, dégradation de l'environnement, foyer de guerre partout dans le monde, écrasement des individus, domination dans le travail, domination dans les rapports de race, de genre, etc. Là, je pense que la question du capitalisme et de la sortie hors du capitalisme est une question qui mobilise de plus en plus.
Mais qui n'a cessé d'être différée. C'est-à-dire que il y a ça aussi, c'est-à-dire que Marx le pose en 1845, même un petit peu avant, et on se dit mais on est en 2016, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que on ne fait que vouloir sortir du capitalisme, on ne fait pas tout le monde, mais enfin quand même beaucoup de gens, vous dites qu'il y a quand même une extension de sentiment là, et finalement on se sent tous aliénés, c'est-à-dire qu'on a même déjà eu la conscience de notre aliénation, alors même que nous sommes aliénés dans nos consciences, donc c'est déjà un premier point, un premier pas, et en même temps cette sortie du capitalisme ne fait que être différée. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut faire alors pour en sortir?
Qu'est-ce qu'on peut faire pour en sortir? Déjà, la sortie, on peut dire qu'elle est extrêmement complexe et difficile, et que ce que Marx entrevoyait dans les années qui précèdent immédiatement 1848, évidemment, n'a pas eu lieu. Il est très optimiste à ce moment-là, et il pense que c'est que la révolution va avoir lieu, la révolution mondiale. Depuis lors, ça n'a pas été le cas, et on voit bien à quel point les logiques sociales, les rapports sociaux sont extrêmement puissants et qu'une transformation d'ensemble, là, est extrêmement difficile. L'idée de Marx, c'est qu'une révolution n'aura lieu que dans l'ensemble, dit-il, des pays dominants du monde. Donc elle ne peut pas être locale, hein. C'est aussi l'histoire de révolution dans un seul pays, là, qui est analysée de près. Pour Marx, c'est tout à fait impossible. Et cette transformation d'ensemble qui va être à la fois, bon, pour Marx, à terme, une révolution mondiale, mais aussi, entre-temps, des acquis sociaux. Il ne crache absolument pas sur des améliorations qui seront produites par le mouvement ouvrier anglais, notamment, acquises par le mouvement ouvrier anglais. Donc tout cet ensemble-là, c'est l'histoire en train de se faire, et ça nous ramène à ce qu'on disait au début de l'émission, à savoir que l'histoire n'avance pas tout droit, qu'elle est complexe, qu'elle est tortueuse, et qu'en même temps, elle n'est jamais finie. Donc cette tâche reste devant nous.
Maintenant, c'est l'heure de la barricade. Si méprisé des savants stratèges, c'est le combat de chaque habitant pour sa rue, pour sa maison. Citoyens, si nos ennemis réussissaient à faire de Paris un tombeau, ce ne sera certes pas le tombeau de notre idée. Citoyens délégués, voici les délégués du 11e arrondissement.
Ah, citoyenne, vous apportez le printemps dans notre hôtel de ville.
T'inquiète pas, petit. Ah. Citoyen délégué, j'ai une lettre pour vous. Elle est courte.
20 pages.
Tais-toi, petit. Hier après-midi, des affiches ont été collées dans notre quartier. Elles nous demandent, à nous, les femmes de Paris, d'intervenir pour une réconciliation avec le soi-disant gouvernement de Versailles. Nous répondons, pas de réconciliation possible entre la liberté et le despotisme, entre le peuple et ses bourreaux. La place des ouvriers et des ouvrières est sur les barricades. Le 4 septembre, on disait, après nos forts, nos remparts. Après nos remparts, nos barricades. Après nos barricades, nos poitrines. 552 femmes du 11e arrondissement. Bien le bonsoir, citoyens.
Bravo. Isabelle Garraud, Marx a été un spectateur plus qu'enthousiaste de la Commune de 1870. Il en a même parlé dans un texte qui s'appelle « La guerre civile en France » qui date de 1871. On peut y voir dans cette Commune l'invention en fait des hommes, une invention qui serait d'ordre démocratique. Alors je dois dire que nous replonger en 1870 ne nous porte pas vers l'avenir, mais néanmoins cela nous permet aussi de voir ce qui n'a peut-être pas fonctionner, et peut-être aussi cette idée que la Commune prenait la forme, selon Marx, d'éléments démocratiques, c'est-à-dire démocratiser le pouvoir, supprimer les postes qui étaient oppressants, donc répondre le pouvoir en fait à travers le modèle de la Commune est un élément démocratique. Est-ce que aujourd'hui on pourrait penser une forme de renouvellement de l'histoire, d'invention historique qui ne serait pas démocratique?
Alors, vous avez raison, la question de la démocratie, elle est vraiment centrale. On retrouve ici d'ailleurs la question politique. Pour Marx, la Commune, ça va être ce grand moment d'invention où on va avoir à la fois des formes politiques neuves, par exemple la révocabilité des élus, le fait qu'on peut révoquer quelqu'un qui ne tient pas ses promesses, par exemple, qu'on a dans la Commune aussi ce qui pour Marx va être le plus important, à savoir une intervention de la politique sur le terrain de la production. Et que la démocratie, elle se joue là. C'est-à-dire que dans les formes libérales de la vie politique, la politique s'arrête à la porte de ce qui est considéré comme privé, la gestion des entreprises par ceux qui les possèdent. On retrouve aussi la lutte des classes à ce niveau-là. Pour Marx, c'est évidemment sur le terrain de la production, de son organisation, de la redéfinition même du travail, de ce qu'il faut produire, de comment on le produit, que la vraie démocratie aura lieu. C'est-à-dire que là, ce sont l'ensemble des individus qui travaillent, qui ont à gérer, qui géreront ensemble, ils parlent d'auto-gouvernement à l'occasion de la Commune, qui vont gérer ensemble cette organisation de la production. Et là, on a vraiment une redéfinition de la politique. La politique, c'est pas simplement quelque chose qui est coupé de la réalité sociale, c'est les formes d'organisation de la réalité sociale. Donc pour Marx, la grande invention de la Commune, c'est, il le dit d'une belle formule, hein, c'est la forme politique enfin trouvée de l'émancipation des travailleurs. Donc la manière dont ces travailleurs vont s'emparer de ces questions politiques et les gérer démocratiquement à l'échelle qui est celle de la Commune, hein, c'est-à-dire 45 jours. Et l'échec de la Commune, c'est le massacre, c'est la semaine sanglante, c'est cette répression terrible qui va s'abattre sur cette expérience historique qui, du coup, n'a pas encore porté tous ses fruits. C'est vrai que ça nous rapporte au passé, mais le passé est parfois le lieu d'innovation qui reste féconde. Et c'est sans doute le cas de la Commune de Paris.
On a entendu, donc justement, pour parler de la commune, un extrait de la pièce de Brecht qui date de 1949, Les jours de la commune. Là, c'était dans une adaptation de 1982. On entend les individus, justement, à l'œuvre, se passer la parole, prendre la parole, dire vouloir monter sur les barricades. Donc il y a d'abord effectivement peut-être cette idée qu'il faudra des couches en fait de crise, de prise de conscience, d'initiative pour que quelque chose se passe. Mais on voit aussi que prendre la parole à un moment donné doit ouvrir sur autre chose que cette prise de parole, comment éviter la répression? Qu'est-ce qui va faire peut-être que va se jouer un basculement? Ça revient à la question de qu'est-ce qui fait que la crise est sans cesse différée ou ne débouche sur rien. Mais effectivement, Marx, trouve-t-on chez Marx la réponse à ce petit basculement qui fera la différence?
Ce basculement, il est impossible à décréter d'avance. Hein. C'est vraiment là l'histoire dans toute son épaisseur, dans toute sa complétude.
C'est là où les hommes ne décident plus finalement.
C'est là où les hommes décident tellement ensemble et dans des situations tellement complexes que personne ne peut par avance deviner ce qui se passera. Et que l'histoire se corrige elle-même en permanence. Alors Marx, dans les analyses qu'il propose de l'histoire française, puisqu'il est passionné avant la Commune de Paris par ce siècle des révolutions, 1848-1871, va dire finalement que les révolutions modernes sont des révolutions qui se corrigent sans cesse elles-mêmes. C'est-à-dire profondément démocratiques en ce sens-là, où rien n'est écrit, rien n'est sur le papier prédéfini. Mais en revanche, la discussion, la prise de parole, comme vous dites, va être le moyen d'agir, de s'unir, d'essayer d'anticiper, de programmer, etc. Sachant qu'il faut évidemment toujours remettre sur le métier tout cela, et qu'en face, il y a un adversaire féroce. Et que là, la question des luttes de classe n'est pas une question théorique, seulement, c'est évidemment la question d'un adversaire qui est prêt à tout pour empêcher un mouvement d'émancipation de voir le jour.
Et alors, ultime question sur le... On a parlé du communisme. Est-ce que le socialisme a encore une chance quand on voit aujourd'hui tous les mouvements contre le socialisme? Quelle peut être la réponse si elle n'est pas à droite et si elle n'est pas à gauche?
Alors, socialisme et communisme sont des mots qui maintenant ont bien des sens, ont traversé une histoire qui leur a donné des sens extrêmement différents et contradictoires. Je crois que ces deux termes-là continuent d'avoir une actualité, mais qu'il faut prendre soin de bien les définir. Et qu'en tout cas, l'exaspération montante de par le monde contre le capitalisme est quelque chose qui ne va pas s'arrêter demain matin. Et que là, la question d'un projet, quel que soit le nom qu'on lui donne, d'un projet de sortie hors du capitalisme et d'abolition du capitalisme est de plus en plus actuelle.
Les salauds, chanson engagée. Une chanson contre les bourgeois qui crachent son venin à la face de la société. En blé, on va pas se faire emmerder, non? Mon père est mort à la guerre. Mon frère se tue au travail. Et les salauds s'en moquent bien. Que l'on crève comme les chiens, les salauds, c'est à la sueur de notre front que les salauds gagnent leur pognon et ils nous aident pour faire ripaille, les copains de notre travail, les salauds, oui mais un jour on sera fort et dans les villes et dans les les hommes lèveront leurs poings pour foutre sur la gueule des rupins, des salauds. Alors ils vont envoyer leur police, mais comme on est plus nombreux, on va leur foutre sur la gueule et on va leur faire bouffer leur képi parce que moi, s'il y en a qui vient m'emmerder, j'y fous ma guitare à travers la gueule. Alors merde, on va pas se faire emmerder par les flics, hein.
Merci beaucoup Isabelle Garraud. On se quitte sur Coluche et sa voix stridente. Donc je rappelle que l'on peut lire de vous Marx, une critique de la philosophie, c'est disponible au Seuil. Marx et l'invention historique, c'est aux éditions Syllab, ça nous a beaucoup servi pour préparer l'émission. Et puis aussi, vous avez co-dirigé avec Jean Numa Ducange l'ouvrage Marx politique, disponible aux éditions La Dispute. Et puis, quant à nous, chers auditeurs, on se retrouve demain pour le troisième moment de cette semaine, Karl Marx. Et demain, j'aurai le plaisir d'évoquer la magie de la monnaie avec Bruno Pinchard. Et puis aussi, chers auditeurs, écoutez les une nouvelle vague de Marie Richeux à 14h. On y parle toute cette semaine de patron. Évidemment, vous avez fait le lien avec Marx. Et puis, si vous souhaitez réécouter cette émission, eh bien, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins pour la télécharger et la podcaster ou l'écouter en ligne. Puis rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter des Nouveaux Chemins où toute l'équipe met en ligne l'émission du jour.